ça n'avait pas de bon sens. On s'est dit, ça se peut-tu? À la première journée, on risque de perdre notre école. Pour moi, l'école, c'est ma plus grande fierté. Il y a quelque chose de spécial ici.
Bonjour et bienvenue au Balado Franco-Loops. Je suis Jamie Shinkuski et je pose la question, pourquoi à Kamloops, dans une ville anglophone, est-ce que la francophonie est importante? Mon invité pour ce premier épisode est un pilier de la communauté francophone. Il est un des parents fondateurs de l'école francophone, un ancien président de l'association Parents École et ex-président de l'association francophone de Kamloops, où il est toujours un conseiller. Bienvenue au Balado Franco-Loops, Gilles Viau. Comment ça va?
Merci, Jamie. Ça va très bien.
Alors, nous autres, notre histoire en commun, c'est absolument le début de l'école francophone. Ça fait plus que 20 ans maintenant qu'on a une école francophone à Kamloops. Moi, j'avais le privilège d'être un des premiers élèves, mais toi, c'est vraiment un travail que tu as fait dans le temps. Alors, je veux commencer par savoir pourquoi est-ce que tu as trouvé que c'était important qu'on aille une école francophone ici à Kamloops?
Non, c'est une bonne question, ça. Et puis, l'importance d'avoir une école francophone à Kamloops m'est venue de notre expérience en Saskatchewan. Nous, ma famille et moi avons déménagé de la Saskatchewan à Kamloops en 1998. Et puis, à Saskatoon, on avait le privilège de pouvoir envoyer nos enfants à l'école francophone, l'école canadienne-française de Saskatoon. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé comment c'était important pour les petits francophones d'être éduqués dans leur langue première. Et puis, nous, on avait deux enfants à l'école, une qui était en sixième année, au moment où on a déménagé, et puis l'autre qui était en maternelle. Alors, ils ont eu le plaisir d'être éduqués en français dans leur première langue. Et puis, quand on a déménagé ici, bien, il n'y avait pas cette infrastructure-là. Alors là, on a envoyé nos enfants à l'école d'immersion. Et puis, ce qu'on s'est aperçu, surtout, c'est une chienne plus jeune qui a perdu son français. Malgré qu'à la maison, rien n'avait changé, on continuait à parler en français, mais l'éducation qu'elle recevait en immersion, le niveau de langage, elle s'était adaptée au niveau de langage des jeunes de son environnement, qui n'était pas celui auquel on était habitué à l'école francophone à Saskatoon. Et puis on s'est aperçu, mais ça ne fonctionne pas pour nous autres. Notre enfant, on est francophone, puis est en train de perdre son français en allant à l'école d'immersion. Alors, moi, comme j'avais l'expérience du système francophone en Saskatchewan, et puis aussi j'ai été impliqué j'ai travaillé pour la Fédération des parents de la Saskatchewan, alors j'avais quand même une expérience peut-être un peu plus approfondie du système. Quand on a eu l'opportunité, ici, il y a eu une visite du conseil scolaire en 98 ou 99 pour faire la promotion du conseil scolaire et puis des écoles francophones. C'était tout nouveau en Colombie-Britannique. À ce moment-là, je crois que le conseil scolaire avait juste 2 ou 3 ans d'existence. Alors, ils faisaient leur tour de la province. Et puis, moi puis d'autres parents, on a dit « Ah, ça, c'est intéressant ». Et puis, on a laissé l'idée un peu comme ça, mais à un moment donné, moi puis un autre parent, on a dit, ben, ça serait plaisant qu'on ait une école francophone ici à Kamloops. Alors, on a, à travers l'association francophone, moi, j'étais pas impliqué à l'association francophone à ce moment-là, alors à travers l'association francophone, on a dit, comment qu'on peut rejoindre les francophones pour essayer de voir s'il y a de l'intérêt. Puis, la première année, on n'a pas été capable d'avoir assez d'étudiants ou assez d'enfants pour avoir une école. Ça, c'était en 99, je crois. Et puis, c'était un gros désappointement pour les parents qui avaient inscrit leurs enfants à l'école. Et puis, on a réessayé la deuxième année après ça pour avoir une école francophone. Et puis, on a fait beaucoup de travail. On était vraiment en communication avec le conseil scolaire. Puis eux voulaient aussi ouvrir une école à Kamloops. Et puis, la deuxième année, on a eu Ça nous prenait 10 élèves pour ouvrir une école, puis la deuxième année, on a eu nos 10 élèves. Et puis c'était tout un défi de convaincre les parents d'envoyer, d'inscrire leurs enfants à une école qui n'existait pas, d'un programme qu'ils ne connaissaient pas, et puis qui entrait en compétition avec le système d'immersion ici à Kamloops. Les gens étaient très satisfaits du programme d'immersion. Et aussi, une grosse majorité de des gens qu'on essayait d'atteindre étaient des enseignants d'immersion. Alors, ils se disaient, mais moi, j'enseigne à l'immersion, pourquoi j'enverrais mes enfants dans un autre système? En tout cas, on avait beaucoup de défis, mais la deuxième année, on a été capable d'avoir assez d'élèves pour ouvrir une école. Et puis, malheureusement, cette année-là, on se l'est fait dire au mois de juin, tout était beau jusqu'au mois de juin, puis on s'est fait dire au mois de juin que l'école, malgré du fait qu'on ait assez d'élèves pour ouvrir l'école, qu'il n'allait pas avoir d'école à Kamloops, parce qu'à ce moment-là, le conseil scolaire avait des problèmes financiers. Ils avaient grossi assez rapidement, puis certaines écoles qui ont dû fermer après un an d'existence, puis ils voulaient revoir leur formule ou je ne sais plus trop quoi. Alors nous, malgré qu'on a eu, on avait tout ce que ça prenait pour ouvrir une école, on s'est fait fermer la porte au nez. Ça a été un dur coup. Puis après ça, on a laissé passer un peu de temps, puis en janvier 2000, je crois, là, on a recommencé à appeler les parents pour voir s'il y en avait qui étaient intéressés. Il y en a qui étaient intéressés la deuxième année, qui ne l'étaient plus la troisième année, alors il fallait trouver, aller chercher d'autres familles, ça a pris énormément de temps. Puis là, il y a d'autres personnes qui sont joints au groupe, dont ta mère est devenue partie du groupe, il y avait d'autres parents qui sont joints au groupe. Alors, à la fin du mois de mai 2000, je crois, là, on avait nos 10 élèves. Et puis, en juin, on a eu l'annonce qu'il allait avoir une école à Kamloops.
Alors, c'était vraiment un processus pluriannuel avec deux défis. Alors, trouver les familles dans la communauté, mais aussi de travailler avec un district provincial assez nouveau. Ça aussi, ça doit que c'était quelque chose à surmonter dans le temps.
Oui, absolument. Aussi, c'est sûrement de vendre le système francophone aux parents de Kamloops. C'était difficile, comme je disais tout à l'heure. C'est un système qui n'avait pas fait ses preuves encore, que les gens ne connaissaient pas. Il y a déjà eu un programme cadre ici à Kamloops qui a fermé. Alors, ils se demandaient, moi, mais est-ce que ça va être stable? Et puis, je sais qu'on a eu le conseil scolaire local n'était pas tellement... ils nous regardaient arriver, puis eux aussi, ils voyaient que ça allait être on allait entrer en compétition pour des élèves, parce que le plus d'élèves que l'école francophone avait, le moins qu'elle avait dans le système scolaire local. Alors, oui, c'est des gros défis à surmonter. Et puis, très heureux une fois qu'on a eu l'école. Mais là, la bataille commençait parce que là, il fallait que cette école-là survive. Puis, il fallait continuer à faire... à la rendre plus visible et puis à la faire grandir.
Oui, ça se doit que... Très satisfait dès le moment que ça a été annoncé que l'école allait ouvrir les portes. Mais là, ça passait à la prochaine étape de le faire survivre. Puis, qu'est-ce que tu te souviens de la première journée de l'école?
Une journée très traumatique. On avait 10 élèves d'inscrits à l'école. Et puis, il y en avait à peu près 8 qui étaient supposés se présenter la première journée. Et puis, à ce moment-là, on n'avait pas encore notre enseignante, elle n'était pas arrivée encore. Alors, c'était quelqu'un du conseil scolaire qui était là pour prendre en charge en attendant, qu'il n'y a pas d'enseignante. Et puis, après l'ouvrage, je suis allé à l'école pour voir, OK, là, comment ça s'est passé la première journée. Puis, l'enseignante a dit, il y a juste 4 qui sont présentés, puis on ne pense pas que les autres vont revenir. Puis là, ça n'avait pas de bon sens. On s'est dit, ça se peut-tu? À la première journée, on risque de perdre notre école. Alors, bouleversé, puis vraiment, là, terrassé par la nouvelle, qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'a pas d'allure avec tous les efforts, puis les attentes qu'il y a vis-à-vis de ce projet-là. Et puis, quand on pense à ça, on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à nos enfants? On les a pris d'une école où il y avait plein d'élèves et plein de ressources pour les amener à une école. Ils vont juste être 8, puis il va y avoir une salle de classe avec une enseignante avec tous les niveaux. On se pose la question après, on dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais ça a permis, l'école a terminé l'année avec 12 élèves, en fin de compte. Il y en a d'autres qui se sont greffés au fur et à mesure. Et puis ça a été la première journée. Il n'y avait rien de gagné.
On louait des salles de classe dans une école anglophone. Puis on était à Beattie dans le temps.
Ouais.
Après ça, à South Sahali, avant de finalement trouver les locaux où ils sont maintenant. Est-ce que ça, c'était la prochaine grande étape pour l'école, de se trouver un bâtiment à soi-même?
Ah oui, on a travaillé beaucoup là-dessus. Je dois dire qu'on a toujours été bien accueillis dans les écoles où on est allé, à Beattie puis à South Sahali. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, mais le but d'une école francophone, c'est d'être homogène, d'avoir plus de contrôle sur le fait français dans l'école. Alors, quand tu partages les locaux avec une école anglophone ou une école d'immersion, bien, tu n'as pas le contrôle de ce qui se passe dans les couloirs, t'as pas le contrôle de ce qui se passe dans le terrain de jeu. Alors, c'est important pour l'apprentissage du français et de la culture de nos élèves qu'on ait une école à nous. Alors, on a travaillé fort avec le conseil scolaire, on a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de visites, des pourparlers avec le conseil scolaire francophone et le conseil scolaire local au fil des années. On a eu plein de, pas des promesses, mais d'espoir d'aller ici, d'aller là. Il y a même eu des annonces, à un moment donné, c'était on a dans notre esprit, c'était presque certain qu'on allait à Pine Ridge, par exemple, et ça aurait été super. Et puis, mais non, c'est pas arrivé. Mais on a finalement eu accès à l'école où on est présentement. Donc maintenant, on en est propriétaire. Et puis, les projets, c'est de construire une école secondaire sur ce terrain-là. Alors, c'est fantastique. Mais c'est des projets qui sont de longue haleine. Et puis, on fait tout ça pour les enfants. On fait tout ça pour la communauté. On fait tout ça pour garder, espérer que les familles aient une vie francophone. C'est possible de vivre une vie familiale en français, en milieu minoritaire.
Saviez-vous que?
Saviez-vous?
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 Saviez-vous que?
La rivière Deadman. Le nom de la rivière vient des années 1817, quand Pierre Charette de la Compagnie du Nord-Ouest a été tué par son ami de voyage en camping. La rivière a plusieurs noms, dont Knife, Dead, Defiant et Rivière du Défunt. Deadman River est située dans l'intérieur de la Colombie-Britannique au Canada. La rivière mesure 70 km de long. Et saviez-vous que selon les Vanderhoofian, on dit que c'est le centre de l'univers?
Le segment « Saviez-vous que? » a été écrit et enregistré par les jeunes francophones de Kamloops et sa région. Merci à Sarah-Jeanne Black de nous avoir fait découvrir la rivière Deadman. Avec ton expérience, tu as grandi à Québec. Là, tu as vécu en Saskatchewan.
Pendant 9 ans.
Et là, rendu en Colombie-Britannique, c'est quoi les grandes différences de vivre en les trois provinces en tant que francophone?
Non, c'est une bonne question, ça. Ben, au Québec, tu prends le fait français pour acquis. Moi, je suis de la région de Québec. Puis, juste avant que je parte du Québec, j'avais pas besoin d'anglais. Alors, c'est très confortable, tu le prends pour acquis, puis il n'y a vraiment rien à défendre. En Saskatchewan, quand on est déménagé là, moi, je m'en allais pour faire ma maîtrise, faire mon doctorat. Alors, moi, c'était concentré sur mes études. Et puis, mais ça a donné qu'on avait des enfants aussi. Et puis, une fois, quand ils ont eu l'âge d'aller à l'école, c'est là que vraiment, pour moi, la culture, j'ai réalisé que moi, mais c'est quoi que je vais transmettre à mes enfants, là? On parle en français à la maison, c'est tout est beau, ils parlent français, ils ne parlent pas beaucoup d'anglais, mais une fois qu'ils sortent dehors, une fois qu'ils vont aller à l'école, ils vont être en contact avec l'anglais, puis on sait bien que l'anglais, c'est quelque chose que tu attrapes, là. Alors, je me posais beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Puis, du côté de Gloria, mon épouse, elle est colombienne. Alors, on voulait aussi qu'il y ait la culture colombienne soit dans le mix. Ça faisait partie de notre famille, notre réalité. Alors, on avait sur deux fronts, on pensait tous les deux, là, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants? Au départ, j'étais niaiseux, assez naïf. Puis là, je me dis, ah, francophone, on est en Saskatchewan. C'est quoi cette affaire-là? Je n'étais pas vraiment au courant à ce moment-là. Ça faisait pas longtemps qu'on était arrivé en Saskatchewan, qu'il y avait une communauté francophone. Puis j'étais un peu réticent au départ. J'ai dit, ah, ça va être une gang de, je sais pas, de radicales, puis de revendicateurs, puis toujours le poing en l'air, nos droits. Nos... Puis j'étais allé envoyer la et à la manière prématernelle, puis là, je me suis réalisé que j'étais un peu niaiseux. C'était pas ça pantoute. C'était des gens qui voulaient vivre leur culture, qui voulaient vivre leur langue ensemble, se soutenir, puis se donner des chances de survivre, puis d'avoir une vie en français, même en milieu minoritaire. Et puis, au point où je suis devenu... C'est là que ça a commencé mon implication dans la francophonie. Je suis devenu le président de la Prime Éternelle après un petit bout de temps. Alors, c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait revendiquer, qu'il fallait se battre, qu'il fallait chérir notre communauté puis s'impliquer dans la communauté. C'est très important l'implication dans la communauté. Si tu ne t'impliques pas dans ta communauté, il y a plus de chances de cette communauté-là, que cette communauté-là ne survive pas. Alors, l'implication des gens à l'école, l'implication des gens dans la communauté artistique à Saskatoon. On avait la chance d'avoir une troupe de danse, on avait la chance d'avoir un théâtre francophone, d'avoir plein de groupes comme ça. Il y avait un groupe d'aînés aussi. Alors, les gens, il y avait une grosse communauté, il y avait beaucoup de connexions. Et puis, il y avait une paroisse francophone aussi. Alors, il y avait un centre communautaire. Alors, mais les gens étaient impliqués à différents niveaux puis se rejoignaient ensemble régulièrement pour vivre notre vie en communauté. Puis quand on est arrivé ici, à Kamloops, ben là, on change d'échelle. À Saskatoon, il y a 170 000 personnes. Et ben là, il y en a, dans le temps, il y en avait 170, là, il y en a beaucoup plus, mais il y avait une grande communauté francophone forte. Puis là, ici... Tout ce qu'il y avait ici, c'était un centre communautaire. Et puis, au moment où on est arrivé, c'était la communauté était grisonnante. Il n'y avait pas vraiment de famille impliquée. C'était des gens, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, mais il me semble que ça manquait d'énergie. Puis on est arrivé là-dedans dans une communauté qui bougeait tout le temps, qui plein de choses se passaient. Une communauté où il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Et puis, ça a bien changé depuis ce temps-là. Là, c'est pas grâce à moi, là, évidemment. C'est grâce à tout le monde qui sont impliqués au fil du temps, là, on a des familles impliquées, on a beaucoup de gens qui viennent, nos activités sont bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent à nos activités. On est à une plus petite échelle ici qu'en Saskatchewan, mais on a une belle vie communautaire.
Et pour juste virer de bord un peu, vous êtes arrivé à Kamloops en 98. Qu'est-ce qui vous a fait venir et... Maintenant, ça fait plusieurs décennies. Qu'est-ce que vous avez fait de rester?
Bien, moi, ce qui m'a fait venir ici, moi et ma famille, c'est... moi, j'ai terminé mon doctorat à l'Université de la Saskatchewan. Et puis, c'est un emploi ici. Je suis géographe. Et puis, j'ai été engagé ici en 97. Je suis venu un an avant ma famille pour tâter le terrain. Moi aussi, mon premier contrat, c'est un contrat temporaire. De 9 mois, alors, mais ils m'ont engagé après ça à temps plein, alors toute la famille a déménagé. Et puis ce qui nous tient ici, c'est moi j'ai développé la famille. On a développé un attachement très grand avec la région ici, le paysage, la température et puis les gens aussi. Et puis la qualité de vie qu'on a ici, c'est incomparable. mais on n'a pas vraiment l'intention d'aller nulle part. On aime bien ça ici, puis on a tout ce qu'il nous faut, la communauté, le grand air, voilà, quand il n'y a pas de fumée.
Oui, c'est ça. Est-ce que ça, c'est ton aspect préféré de vivre à Kamloops? Je pense que la plupart des citoyens d'ici vont dire ça, que c'est vraiment quelque chose de spécial pour notre région.
Ah oui, moi, je fais beaucoup de randonnées, puis je fais du kayak, puis hier, je suis allé me promener à un nouvel endroit sur le bord de la rivière Tranquille, un côté de la rivière Tranquille que j'avais jamais exploré. Fait que j'ai fait un bon 4-5 km là, dans le... d'un côté de la rivière, comme je dis, j'avais jamais exploré. Puis c'était intéressant parce que c'était mouillé partout, parce qu'il y avait plu un petit peu. C'était pas habituel dans ce qu'on va faire ici. Là. Mais non, j'adore ça. Comme je fais beaucoup de randonnées, puis je garde toutes mes randonnées. J'ai un GPS, puis je collecte toutes mes randonnées sur mon GPS, puis je les mets sur mon ordinateur, puis là, sur Google Earth. Puis là, j'ai plein de lignes partout où les endroits où j'allais, puis mon défi, c'est d'ajouter des nouvelles lignes. C'est que j'essaye de ne pas aller deux fois au même endroit, puis là, j'ai plus que 200 lignes sur ma carte, là. Puis hier, c'est une nouvelle ligne où j'avais jamais été. J'ai juste allé faire des recherches. On dirait qu'il y a un chemin, là. Fait que j'adore ça ici. Il n'y a rien qui nous arrête. Et puis, il y a des écosystèmes différents partout, puis il y a plein de places à explorer. J'ai vécu à plusieurs endroits, puis j'ai aimé tous les endroits où je suis allé, mais il y a quelque chose de spécial ici.
Pour toi, avec des années d'expérience au niveau communautaire, est-ce qu'il y a un projet ou un enjeu que tu es vraiment fier d'avoir réussi?
Ah ben, c'est certainement que pour moi, l'école, c'est ma plus grande fierté. L'école, il n'y a pas d'autre chose pour moi. Pour s'assurer que l'école continue de bien aller, puis... continue de croître. Alors, on est un comité à l'association, donc je suis porte-parole pour coopérer avec tous les intervenants en éducation pour s'assurer que notre école continue de prospérer, que notre primaire et secondaire deviennent moins croître, mais aussi se renforcissent, là, puis qu'on leur donne toutes l'équipement et puis les installations qu'ils ont besoin pour continuer de donner une éducation de qualité à nos élèves et à nos familles.
Et pour toi personnellement, qu'est-ce que ça veut dire la francophonie et pourquoi est-ce que c'est important?
Ben, pour moi, c'est important parce que c'est ce que je suis francophone. Je pensais à ça avant que tu arrives. Être francophone, ben moi, je suis tombé dans la soupe en naissant. Comme Obélix, il est tombé dans la potion magique, mais c'est qui je suis. Puis de mon côté, moi, du côté de ma grand-mère, du côté de ma mère, on est au côté morin. On est au Canada depuis 1650 ou 60, en Acadie. Puis du côté de mon grand-père, Bergeron, on est au Canada depuis... on est au Québec depuis 1670. Mon père est français, alors j'ai des racines. Il y a juste les Autochtones qui peuvent dire qu'ils ont des racines encore plus profondes que moi. J'ai des racines très profondes au Québec, mais au pays aussi. Et puis c'est juste... j'ai un sentiment d'appartenance. Je suis francophone au Canada. Puis là, je suis francophone à Kamloops, puis j'ai développé des racines au fil du temps. Puis c'est un sentiment d'appartenance à l'espace. Alors, c'est ça, d'être francophone pour moi, c'est avoir une appartenance à l'espace, se sentir en contact avec l'espace, avoir des racines, et puis vivre sa culture autant que possible, puis de la partager. Puis aussi de la transmettre. Pour moi, c'est très important. Comme je disais, mes racines sont profondes. Et puis, je voulais pas que mes enfants disent vous auriez dû faire plus d'efforts pour nous transmettre notre culture. Puis nous autres, c'est deux cultures, la culture hispanophone et la culture francophone. Alors, Je pense qu'on ne voulait pas avoir ça sur la conscience, alors on a travaillé fort pour leur transmettre, là, c'était à eux autres maintenant, s'ils veulent le transmettre.
C'est ça, si je me souviens bien, tes filles faisaient des danses, des spectacles de danse de style colombienne aussi. Que...
Non, on en fait beaucoup, puis on voyageait en Amérique latine, puis ouais, c'est encore très, très, très fort. La culture colombienne, latino-américaine est encore très forte dans notre famille. On est très fiers de ça. Très fiers de ça.
Est-ce que c'était difficile à un moment donné de jumeler les deux, ou c'était juste, c'était ça, c'est notre famille, c'est qui on est? Alors.
C'était notre dynamique, alors c'était, ils sont nés là-dedans, ils ont évolué là-dedans, ils allaient à l'école francophone, puis ils dansaient des danses latino-américaines en fin de semaine, puis c'était comme ça quand on était à Saskatoon, quand les enfants étaient tout jeunes, on était les pieds dans les deux communautés, puis ça a vraiment, comme je dis, c'était fantastique, notre famille, puis ça continue ici, là, sur une échelle moindre, là, parce que la communauté hispanophone ici n'est pas organisée du tout au même niveau qu'elle était en Saskatchewan, puis je peux dire, c'était un peu la même chose pour la communauté francophone, malgré qu'on avait quand même des atouts que d'autres communautés n'ont pas, là, mais on était capable quand même de vivre notre culture familiale.
Puis je sais que Gloria parle français. Est-ce que tu as appris à parler en espagnol?
Oh, j'ai appris, mais pas au niveau que j'aurais aimé. Pas à son niveau. Elle, son français est parfait. Mais moi, mon espagnol, ça monte, ça descend. Là j'ai plus de difficultés ces temps-ci. Ça fait des années que je ne m'en suis pas servi. On avait la chance d'avoir les parents à Gloria qui vivait en ville quand on est déménagé de la Saskatchewan. Là, en 98, ils ont déménagé avec nous parce que leur seule autre fille habitait Kelowna. Fait que là, ça rassemblait la famille. Alors, lorsqu'ils étaient vivants, il y avait beaucoup d'Espagnols encore, mais depuis qu'ils sont décédés, maintenant, il y en a moins dans la famille, malheureusement. Alors, je l'entends moins, puis j'ai moins la chance de le parler. Alors, je l'ai perdu. Pas mal, mais c'est juste la paresse.
J'ai quelques questions spéciales à te poser. Okay. La première, pourquoi est-ce que ta fille avait entendu ta voix à la radio quand elle vivait à Montréal en 2003?
Ah oui! Oui, ça c'était drôle parce que c'est 2003, malheureusement, il y avait des feux ici. Alors, j'étais le président de l'association francophone, alors je recevais fréquemment des appels où l'association recevait des appels pour parler à quelqu'un qui pourrait parler des feux. Alors, c'est arrivé plusieurs fois où on m'a demandé de Radio-Canada. Puis, c'est arrivé des fois, c'est des entrevues à TVA, en tout cas. Puis, à un moment donné, ça devait être une radio du Québec. Puis, ma fille qui était en échange à Québec, ou à Montréal à ce moment-là, elle écoute la radio. Puis, elle est comme, hein? C'est papa, ça! C'est trop. C'est vraiment drôle.
C'est pas nécessairement attendu à l'autre bord du pays.
Non, pas du tout.
Puis, deuxièmement, clairement, j'ai parlé un peu avec tes filles avant de venir aujourd'hui.
Ah oui?
Elle veut savoir si c'est vrai, si tu n'étais pas géographe, si tu aurais appliqué pour être le Père Noël.
C'est vrai, il faut que le Père Noël, lui, connaisse le monde un petit peu. Alors, c'était très important. Puis c'est dans notre curriculum, nous autres, en tant que géographes, c'est d'être le Père Noël. Alors, c'est un secret. Il ne faut pas le dire à personne, par exemple.
Non, c'est ça. Si tu deviens Père Noël, personne ne peut savoir que c'est toi.
Personne ne peut savoir, puis on a une poignée de main spéciale entre Père Noël. Là, ça fait que... Oui. Non, ça, je ne parle pas à personne.
OK, alors c'est des rumeurs non fondées encore.
Complètement non fondées.
Puis avant, toi aussi, tu as des expériences à la radio. Ça, c'était une autre affaire que tu avais fait à Saskatoon.
Oui, non, pendant 2 ou 3 ans, j'étais animateur à Radio Communautaire à l'émission. J'avais appelé ça De choses et d'autres. Et puis, c'était de 11h à midi, je pense, le dimanche matin. Et puis, j'avais vraiment adoré ça parce que ça m'a permis, moi, mon but, c'était de rendre ça vivant puis de connecter avec la communauté. J'étais impliqué dans la communauté, alors j'ai dit, il y a plein de gens importants, un peu comme les podcasts que tu fais, là. Alors, il y a toujours à avoir un invité chaque semaine, puis avoir des entrevues avec eux autres, puis le faire jouer de la musique, puis parler de choses et d'autres. Alors, j'ai vraiment aimé ça. Non, c'est une très bonne expérience. Ça m'a appris la difficulté du en direct avec un équipement qui fonctionnait. Une fois sur deux, là, c'est de le vieil équipement dans la radio communautaire. Mais c'était intéressant parce que au début, il n'y a pas grand monde qui écoutait, mais à un moment donné, avec toutes les connexions communautaires, il y avait quand même un bon auditoire. Mais j'avais un gros compétiteur. Le dimanche matin, 11h, c'était la messe à la paroisse. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas écouter parce qu'il était à la messe.
Dernièrement, j'ai vu sur ton profil de TRU que tu tiens un drapeau franco-colombien dans la photo profil.
Oui.
Pourquoi as-tu décidé de faire ça?
À ce moment-là, ils voulaient qu'on... ils voulaient refaire toute la comment je pourrais dire, dans l'image de la faculté. Et puis, ils ont demandé d'amener quelque chose qui nous représente. Alors, moi, j'ai pris le drapeau franco-colombien. Puis, il y en a d'autres collègues qui ont pris le globe. Puis d'autres choses. Mais moi, c'est ça qui me représentait.
Ben, Gilles, je dois te dire un énorme merci de faire partie et de m'aider à commencer notre nouveau projet communautaire du balado. Et ouais, un énorme merci d'avoir pris du temps un matin de m'en parler de tous les aspects de ta vie francophone du Québec jusqu'en Colombie-Britannique.
Ben, je te remercie beaucoup, Jamie. Ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je te souhaite bonne chance pour les autres entrevues, puis je te souhaite bonne chance de faire le découpage pour celle-là.
Merci beaucoup. Francoloops est une production originale de l'Association francophone de Kamloops, diffusée en collaboration avec WebWest. Il faut remercier nos bailleurs de fonds Patrimoine canadien et BC Gaming, Erika Tavernari pour la création du logo, Cutting Station Studios pour le thème musical, Jackie Shinkowski pour la photo de couverture et encore une fois, un énorme merci à Gilles Viaud. Finalement, merci à vous d'être à l'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, pensez de le partager avec un ami, à vous abonner et à nous laisser un commentaire 5 étoiles. Merci et à la prochaine!